Radio Kapi. Oh, Kapi. Les journaux, Renélie Thibaudera.
Renéline Tibonera, je suis en place. Le week-end a été funeste dans certains coins de la RDC. Dans la province du Lualaba, 13 Congolais ont trouvé la mort dans un accident de la route à Louboudi. Pendant ce temps au Nord Kivu, le personnel des Tracep Congo Aviation pleure son pilote décédé dans un crash survenu à Walikale. L'amitié entre la RDC et l'Ouganda passe aussi dans le secteur de la santé. L'Ouganda vient de voler au secours de la zone de santé d'Aru à Ituri en dotant celle-ci de 5 ambulances et d'une dizaine de lits pour renforcer la riposte contre Ebola. En Mbujimayi, les consommateurs de feuilles de manioc peinent en cette période de sécheresse à accéder à cet aliment. En revanche, ceux qui apprécient les amarantes en trouvent à volonté. Pour comprendre ces disparités, nous recevons comme invité l'ingénieur Nico Ilunga qui va nous expliquer le pourquoi. Nous ouvrons ce journal par cette série noire, hélas. 13 morts et 35 blessés graves, c'est le bilan provisoire d'un accident de circulation survenu samedi dans les territoires de Louboudi, dans la province du Lualaba. Le conducteur d'un camion transportant plusieurs passagers en provenance de Mbujimayi a perdu le contrôle de son véhicule avant de terminer sa course dans les bas-côtés de la route. L'excès de vitesse serait à l'origine de ces drames selon des témoignages. Cet accident est le énième enregistré sur cette route. D'autres détails avec l'administrateur du territoire de Louboudi, Jean-Paul Lacou, joint par Jean Gandou.
Le camion provenait de Mbujimayi vers le Haut-Katanga à Lubumbashi. Arrivé au niveau de 10%, c'est à 35 km de Louboudi cité, Louboudi chef-lieu, vers Ngouba, que le chauffeur a perdu le contrôle de son camion et il s'est jeté dans un petit ravin qui était juste à côté. Et avec une erreur de vitesse, c'est comme ça qu'on a connu cet accident. Il y a un bilan provisoire de 13 morts et 35 blessés graves qui sont tous acheminés à Louboudi chef-lieu pour les soins éventuels. Et les corps sont en train d'être acheminés pour être gardés à la morgue en attendant que la province puisse nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est un peu ça le bilan jusque-là.
Et au Nord Kivu, l'avion cargo de la compagnie Tracep Congo Aviation porté disparu depuis vendredi alors qu'il effectuait un vol entre Beni et Kachungu dans le site Kivu, a été retrouvé dimanche écrasé dans les territoires de Walikale. Un de deux membres d'équipage a survécu tandis que le commandant de bord a perdu la vie. Les détails avec Martial Papimoukeba.
L'avion de type LT-L410 de la compagnie Tracep Congo Aviation a été localisé dimanche soir dans la zone de Kamaninge près du village de Buruko en territoire de Walikale selon des sources concordantes de la compagnie et de la régie des voies aériennes, la RVA. L'appareil avait décollé vendredi à 12h36 heure locale de l'aéroport de Mavivi à Beni avec deux membres d'équipage et près de 2 tonnes de marchandises à destination de Kachungu dans le territoire de Shabunda au sud Kivu. Selon nos informations, quelques minutes après le décollage, le commandant de bord a lancé un message de détresse à la suite d'une panne de l'un des deux moteurs. Il a alors tenté de se dérouter vers l'aérodrome de Walikale avant que tout contact radio ne soit perdu. Des recherches ont été engagées dès vendredi avec notamment des équipes de reconnaissance déployées au sol. Selon des sources de la compagnie, le copilote a été retrouvé dimanche après-midi dans la zone de crash près de Buruko. Le commandant de bord, en revanche, n'a pas survécu à l'accident. Les circonstances exactes du crash restent à établir. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Parlons de cette collaboration dans les domaines sanitaires entre la RDC et l'Ouganda, avec bien sûr le pays de Yoweri Museveni Kaguta qui vient de doter la zone de santé d'Aru, située à 260 km de Bunia en Ituri, des 5 ambulances et d'un important lot d'équipements destinés à renforcer la riposte contre la maladie à virus Ebola. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre les deux pays. Selon les autorités l'autorité sanitaire de cette partie de l'Ituri, plusieurs zones de santé du territoire d'Arou manquent encore de moyens logistiques pour assurer les transferts rapides des patients, ce qui augmente les risques de propagation de l'épidémie dans cette zone frontalière avec l'Ouganda où plusieurs dizaines de cas confirmés et des décès ont déjà été enregistrés. N'est-ce pas Isaac Remoyope?
Le lot remis vendredi à la zone de santé d'Arou comprend 5 ambulances, 50 lits, 50 matelas ainsi que des divers équipements médicaux destinés à renforcer la prise en charge des malades d'Ebola. Ces équipements serviront également aux zones de santé voisines d'Ariwara, Adja, Aoumba et Adi, situées à près de 90 km d'Arou. Jusqu'à présent, ces structures éprouvaient d'importantes difficultés pour évacuer rapidement les cas suspects vers les centres de traitement d'Arou, une situation qui favorisait les risques de propagation de l'épidémie selon des sources médicales. Les médecins-chefs des zones de santé d'Arou estiment que cet appui logistique permettra de renforcer la riposte ainsi que les mesures de prévention contre Ebola dans ces territoires frontaliers. Il ajoute que la forte mobilité des populations, notamment provenance des Mongolo et des Bounia, des zones touchées par l'épidémie, accroît le risque de nouveaux cas. Malgré ces renforcements des capacités logistiques, les défis demeurent nombreux. Les équipes de riposte font notamment face à la résistance de certains habitants au respect des mesures de prévention, au manque de laboratoires mobiles dans plusieurs zones de santé, autant de facteurs qui compliquent la lutte contre l'épidémie. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Isaac Remoyope, vous avez parlé de la résistance communautaire. Eh bien, certains agents communautaires déployés dans certains villages des 5 provinces de la RDC touchés par la maladie à virus Ebola continuent de faire face à certains comportements comme le non-respect du lavage de mains, de la distanciation sociale et des enterrements dignes et sécurisés. Situation d'ailleurs à la base de l'explosion des cas. Toutefois, les experts restent optimistes. Il est possible d'inverser la tendance en capitalisant les acquis des précédentes épidémies et en renforçant les structures sanitaires locales, explique-t-il. Reportage de LHM Balou.
Pour Placide Nzilamba, secrétaire technique au sein du bureau de la société civile du Nord Kivu, l'explosion des cas observés ces derniers jours résulte de la non-capitalisation des acquis des campagnes antérieures. Il déplore que les organisations intervenant sur le terrain se limitent à exécuter des projets sans penser à leur pérennisation.
Mais les prérequis des autres épidémies passées, comment on les a gérés? C'est ça le problème. On a eu Covid ici. Est-ce que tous les centres de traitement de Covid, partout il y en avait, est-ce qu'il y en a encore?
Au-delà de ces défis de capitalisation, Umbo Salama, spécialiste en communication, plaide pour une approche plus inclusive. Selon lui, la liste doit intégrer le chef des villages et les leaders influents afin de renforcer l'adhésion communautaire.
Savoir identifier les leaders d'opinion. Si je passe par tel leader, est-ce que mon message va passer? Ou soit que chaque leader, je prends chaque leader dans chaque couche de la société et c'est chaque couche qui peut faire à ce que moi, pour que les gens qui sont autour de moi puissent rentrer. Ce que j'aimerais dire, il faut que je le parle de cette manière-là.
Mardi dernier, l'OMS a averti que la maladie à virus Ebola continue de se propager rapidement dans certaines régions du pays. Selon ces statistiques, plus de 1000 personnes ont déjà perdu la vie depuis les débuts de cette 17e épidémie déclarée le 15 mai dernier.
Nous poursuivons avec cette édition. Le problème, nous les avons compris. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette fois-ci, c'est le gouvernement congolais et de son côté qui demande aux partenaires engagés dans la riposte contre la maladie à virus Ebola d'investir dans des infrastructures sanitaires durables. Objectif, renforcer les systèmes de santé et permettre à ces ouvrages de servir également à la prise en charge d'autres maladies après l'épidémie. Cette recommandation fait suite aux appels des médecins chefs des zones de santé qui plaident pour la réhabilitation et la modernisation des infrastructures sanitaires à Ituri, dont plusieurs sont déjà vétustes et détruites ou dégradées par les conflits armés. Le reportage est signé toujours Isaac Remoyope.
En Ituri, la plupart des centres de traitement et d'isolement d'Ebola sont des installations provisoires construites avec des bâches, des planches ou d'autres matériaux légers. Il en est de même pour plusieurs postes de contrôle sanitaire installés le long des accès routiers où s'effectuent les lavages de mains et la prise de température. Dans certaines zones, les équipes de riposte travaillent même dans les anciens bâtiments hospitaliers, souvent vétustes ou abandonnés, ce qui limite les capacités d'accueil des structures de santé. Face à cette situation, le gouvernement demande aux partenaires de privilégier la construction construction d'ouvrages permanents en matériaux durables capables de répondre aux besoins sanitaires au-delà de l'épidémie d'Ebola. La ministre des Affaires sociales et des Actions humanitaires, Eve Bazaïba.
Nous avons tous visité les sites. Bravo à nos partenaires que nous allions dans l'approche humanitaire de la durabilité, des relèvements de la population. Il nous faut vraiment une construction durable. Beaucoup de dépenses que nous avons faites, mais pour combien de temps nous allons les tenir? En dehors d'Ebola, d'autres maladies peuvent être prises en charge si nous allons dans une approche de durabilité en termes d'infrastructures.
Signalons que les conflits armés continuent d'affaiblir les systèmes de santé avec de lourdes conséquences sur l'accès aux soins, en particulier pour les populations déplacées. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Il est 7h passées des 10 minutes à Matadi où nous ouvrons un autre chapitre avec le programme d'investissement pour les forêts et la restauration des savanes qui vient de voler au secours de ses différentes agences dans les Congo central. 12 structures bénéficient désormais des 12 camions de 20 tonnes, 12 véhicules tout-terrain, 22 tracteurs avec accessoires, 72 motos, 34 tricycles, 48 ordinateurs portables ainsi que des imprimantes et autres photocopieuses. La cérémonie de remise de ces biens a été organisée samedi à Matadi. Mission du PIFORES, permettre à ces agences de booster les activités du programme sur le terrain, notamment par la restauration des forêts et des savanes, le développement des plantations agroforestières et l'accompagnement des communautés locales face aux effets du changement climatique. Détail depuis Matadi avec Élise Kavira.
Cette remise d'équipement marque le démarrage effectif des interventions du PIFORES dans les 10 territoires du Congo central. Objectif, restaurer les forêts et les savanes, développer les plantations agroforestières et lutter contre les effets du changement climatique afin de préserver l'environnement et d'améliorer durablement les conditions de vie des communautés locales. Dans son allocution, le ministre provincial de l'Environnement, Alain Mambou, a indiqué qu'au-delà de la restauration des écosystèmes et de la protection de l'environnement, ce programme permettra aussi de renforcer la résilience des populations face aux effets des changements climatiques. Il a par ailleurs souligné que cette initiative contribuera à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes dans les zones d'exécution des projets. Selon le chef d'antenne provinciale du PIFORES, Dieudonné Matondo, ces équipements ont été remis pour répondre aux difficultés que rencontraient les agences locales sur le terrain. Dans cette même dynamique, le coordonnateur national du PIFORES, Clément Vangouloutété, a réaffirmé l'engagement du programme à accompagner les communautés locales à travers la mise en œuvre des activités prévues, notamment l'élaboration des plans d'aménagement des villages et le développement des plantations agroforestières. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Nous allons quitter Matadi pour Mbujima et toujours changement climatique. Les habitants de cette ville peinent à le supporter. Ces variations des climats de plus en plus extrêmes provoquent des nuits étouffantes, des matinées parfois fraîches et des pics de chaleur à la mi-journée. Un phénomène qui s'intensifie chaque année à la même période et qui oblige la population du Kasai oriental à revoir ses habitudes pour se protéger, selon les médecins, les climatologues et les environnementalistes. Esper Ndalafina nous donne un peu plus de détails sur cette situation.
Dans les ménages de toutes les communes, les témoignages se ressemblent. La nuit, les températures restent élevées, rendant le sommeil difficile. À l'aube, une fraîcheur soudaine s'installe avant que la chaleur ne frappe de nouveau. Selon le professeur Alphonse Kambi, spécialiste en climatologie, ces variations sont des manifestations du changement des saisons. Il souhaite que les populations se couvrent pour se protéger des maladies.
Le corps ne peut pas s'habituer à des changements brusques comme ça de température. C'est pourquoi il est recommandé de se couvrir plus légèrement lorsque il fait un peu chaud, vers le matin, se couvrir avec un habit un peu lourd pour se protéger.
Pour Dr Jean-Pierre Soumba, chargé des maladies à la division provinciale de la santé, la population doit boire beaucoup d'eau.
Si nous prenons les effets directs, vous verrez par exemple des vagues de chaleur qui peuvent amener à une déshydratation chez quelqu'un et augmenterait même la mortalité, surtout chez les plus âgés et les enfants. Il faudrait boire beaucoup, il faut peut-être se laver, mais aussi améliorer l'assainissement.
Ingénieur agronome Nico Ilunga recommande également d'adapter l'alimentation pendant cette période.
Quand il fait tellement chaud, nous connaissons la déshydratation. Il faut consommer surtout les légumes, là il y a abondance de liquide là-bas.
Entre nuits suffocantes et journées brûlantes, les habitants apprennent à vivre avec un climat devenu imprévisible. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Cap sur Kananga, la ville connaît une recrudescence des lieux de jeu, mais pas seulement. Ces espaces alternent enseignement et loisirs pour le grand plaisir des enfants et la satisfaction des parents. L'objectif étant de mettre les élèves à l'abri de plusieurs risques tels que les violences ou les mauvaises fréquentations. Il faut dire aussi que plusieurs organisations ont ouvert ces espaces sûrs, des lieux où des enfants jouent, apprennent et s'épanouissent en même temps et surtout où ils sont en sécurité. Reportage signé André Katenengalamouloumé.
Des éclats de rire, de chants et de jeux, à Lukonga, des dizaines d'enfants vivent leurs vacances autrement dans un espace sûr de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral. Ici, pas de longues journées passées dans la rue. Les enfants participent à des jeux éducatifs. Ils lisent et apprennent sur l'hygiène, la santé, le civisme, leurs droits et aussi les vivre ensemble.
On nous donne des bons enseignements qui peuvent nous aider dans la vie. Et après ces enseignements, nous jouons. Ça nous fait plaisir d'être ici.
Cet espace offre bien plus que des loisirs. Il protège aussi les enfants contre les violences, les abus et les mauvaise fréquentation. Il les aide à reprendre confiance en eux. Pour Joyce Chubwabwa, encadreuse, les vacances restent une période sensible. Sans activité, certains enfants deviennent plus vulnérables.
Pendant cette période de grandes vacances, les enfants peuvent être éparpillés. Maintenant, avec cet encadrement, on va les unir. Ça va aider à ce que ces enfants ne puissent pas succomber, surtout dans les VBG.
Les parents saluent cette initiative. Ils estiment que ces espaces occupent utilement leurs enfants pendant qu'ils travaillent. Kananga, André Katendengalamouloumé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les pompiers français et espagnols ont continué à affronter dimanche 26 juillet des gigantesques incendies qui ont forcé plus de 325 000 personnes à fuir leur domicile, alors que près de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, les flammes sont à 15 km de l'agglomération. Le pourtour du très touristique bassin d'Arcachon notamment fait face à un redoutable pyrrhino-cumulonimbus appelé orage de feu, a expliqué l'AFP.
L'invité.
En cette saison sèche, plusieurs marchés de Mbujimaï affichent une abondance d'amarantes, de choux, pommes et de choux de Chine. À l'inverse, les feuilles de manioc se font de plus en plus rares. Malgré cette disponibilité des légumes des saisons sèches, certains ménages, en tout cas, soupçonnent que ces produits sont cultivés à l'aide d'engrais chimiques avec des risques pour la santé, craignent d'ailleurs certaines femmes. Pour comprendre cette situation, nous avons approché les services de vulgarisation agricole du Kasaï Oriental, l'ingénieur Nico Ilunga, coordonnateur adjoint chargé de la formation de la vulgarisation à cette division, s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, ingénieur Nico Ilunga.
Bonjour, madame la journaliste.
Oui, quelles sont les principales causes de la rareté des feuilles de manioc observées actuellement sur les marchés locaux?
La rareté observée sur les feuilles de manioc sur nos marchés locaux, c'est dit diminution des taux d'humidité dans les sols. Comme nous sommes dans une période de sécheresse, la sève qui devrait être absorbée s'est facilitée par l'eau. Comme il n'y a pas la pluie, il y a diminution d'humidité, c'est ainsi les feuilles se sèchent d'un moment à l'autre.
Cette pénurie affecte-t-elle les habitudes alimentaires?
Carrément, ça affecte les habitudes alimentaires parce que les feuilles de manioc, par exemple, c'est un légume courant qu'on utilise dans nos ménages, surtout dans notre province du Kasaï Oriental.
Et pourquoi observe-t-on paradoxalement une abondance d'amarantes et de choux alors que les feuilles de manioc se raréfient?
Oui, carrément, les amarantes sont des légumes verts qui se développent beaucoup plus en saison sèche à cause de l'arrosage. On utilise l'arrosage pour les multiplier, pour amener un peu les taux d'humidité voulus par ces clôtures-là. Et ensuite, ce sont des clôtures qui ne s'adaptent pas beaucoup mieux dans la saison des grandes pluies, parce que ces clôtures n'acceptent pas beaucoup d'humidité. S'il y a trop d'humidité, sur un plan de développement végétatif, ça cause des problèmes. Il y a des parasites, des maladies qui vont se développer dans les sous-sols. Il y a pourriture des racines, par exemple chez les choux là, il y a pourriture si on les fait dans des saisons de grande pluie. Mais dans des saisons sèches, quand on apporte l'arrosage, le taux d'humidité est calculé. Ce n'est pas du tout annexé pour créer cette pourriture. Même les choux de pommée, là, en cas d'une forte humidité, ça s'éclate. Les pommes, là, s'éclatent. Sur le plan économique, l'agriculteur, nous lui demandons de faire l'agriculture maraîchère pour avoir un revenu en main. Alors, il travaille cela pour avoir un gain. Maintenant, pendant la saison de pluie, le rendement est faible, il ne profite rien tant que les semences maraîchères coûtent extrêmement cher.
Certaines ménagères estiment que le maraîcher utilise des engrais pour accélérer la croissance des amarantes et des choux. Cette perception est-elle fondée et quels sont les risques liés à une utilisation excessive d'intrants agricoles?
Bon, exactement. Les agriculteurs utilisent un peu de fertilisant pour activer la croissance rapide. Mais ce que je peux recommander en tant que vulgarisateur agricole, c'est l'utilisation rationnelle. Parce que pour ne pas intoxiquer beaucoup plus les consommateurs, plus qu'on met en excès de fertilisants sans calculer les doses concernées, ça intoxique tout consommateur de ces légumes. C'est ainsi que nous leur demandons qu'ils puissent de temps en temps recourir aux techniciens agronomes pour connaître la dose appropriée à mettre à ces cultures-là.
Oui, en tant qu'agronome, quels sont les conseils pratiques pouvez-vous prodiguer à la population pour faire face à cette période de pénurie tout en observant la qualité de leur alimentation?
En tant qu'agronome, ceux qui aiment beaucoup plus consommer les feuilles de manioc, je leur demande si le réunit les conditions d'arrosage, il peut toujours régénérer la croissance de leur feuilles de manioc et en consommer comme d'habitude. Mais malgré que nous avons une pénurie d'eau, pour réunir ces conditions, ça pose un peu de difficultés. Alors, les légumes qui se vendent au marché chou, c'est vraiment nutritionnel pour la santé de l'être humain. Si vous voyez les gens qui viennent de l'Orient, en consomment beaucoup plus parce qu'ils savent le contenu et l'importance de ces choux dans l'organisme humain. De notre côté, dans notre province, c'était un peu rare, c'est une habitude qui vient pour pallier. Parce qu'une alimentation équilibrée, il faut aussi des légumes verts. Alors pour pallier à ça, il faut en consommer beaucoup plus, s'adapter. Et quant aux agriculteurs, je leur demande une utilisation rationnelle quand ils pratiquent l'agriculture maraîchère pour ne pas surdoser les cultures avec beaucoup d'engrais pour récolter si vite. Il faut qu'il y ait une utilisation rationnelle pour sauvegarder les vies humaines.
Ingénieur Nico Ilunga, merci.
Je vous remercie particulièrement de votre entretien.
Même ici aussi, on vous remercie d'avoir suivi ce journal.